Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine, le 90.9 FM ou www.radio-ondaine.fr. Le 9 décembre célèbre une date importante dans notre pays. Cette date correspond à un élément fondateur de notre République, à savoir la loi sur la séparation de l'État et de l'Église, décrétée précisément le 9 décembre 1905. Selon le premier article de cette loi sur la laïcité, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein du collège Jules Vallès de la Ricamari pour justement parler de la laïcité avec des élèves de toute âge et toute classe, en présence d'une représentante de l'établissement, Madame Karima Guézou, CPE, et aussi Madame Christine Coé, présidente de la LICRA Saint-Étienne Agglomération. Si l'on parle de laïcité, on parle de la liberté de conscience, d'adhésion ou non à une religion, de croire ou de ne pas croire. Durant cette table ronde radiophonique, vous entendrez également les points de vue de représentants de la religion catholique, le père Michel Barthes de Jean, de la paroisse Saint-Vincent de Paul, et un représentant de l'islam avec l'imam Youssef Afif de la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Bien sûr, donc tout le monde aura la parole aujourd'hui sous la simple demande donc de ce micro. Et pour débuter cette rencontre, Madame Coué, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup Nicolas. Donc effectivement, je m'appelle Christine Coé. J'ai accepté très volontiers de venir à cette invitation. Pourquoi ? Parce que par mon métier, je suis avocate et donc je défends les personnes qui peuvent avoir des difficultés à faire valoir leurs demandes et à faire valoir l'application de la loi les concernant. Et je suis particulièrement spécialisée dans la défense des enfants et des jeunes. Et c'est pour ça que j'étais très contente de venir aujourd'hui vous rencontrer. Et c'est pour ça aussi que je dis à quel point c'est important ce que vous pensez et ce que vous allez dire, et même vos interrogations, qu'on ne va surtout pas effacer comme ça nous a été demandé tout à l'heure, mais qu'on va conserver précieusement, parce que vous êtes des citoyens. Et oui, vous n'avez pas tous vos droits de citoyen parce que vous êtes encore mineur, mais très bientôt, dans peu de temps, vous serez majeur, vous aurez le droit de voter, vous serez des vrais citoyens. Et à ce titre, la loi vous intéresse. Alors si je suis venue ici, c'est aussi parce que je suis présidente d'une association dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la LICRA, L-I-C-R-A, la Ligue internationale contre, j'entends des petits mots, contre le racisme et l'antisémitisme, c'est très bien. Alors c'est une vieille association qui a été créée en 1927 pour au départ la défense et la lutte contre l'antisémitisme et donc la défense des juifs qui pouvaient être pourchassés, voire parfois même exterminés, qui a continué d'exercer ce travail de défense pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains ont cette période-là dans votre programme d'histoire, je crois, et vous savez ce qu'il en est advenu, justement, de l'extermination des Juifs. Mais, après la guerre, cette association a dit « il ne faut pas se spécialiser dans la défense de l'antisémitisme, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui souffrent de l'exclusion, qui souffrent d'être écartées, qui souffrent d'être discriminés. Et donc, on va étendre aussi notre travail et notre combat à tous les racismes. Tous ceux qui peuvent souffrir de ne pas être pris en charge correctement en raison de leurs différences d'origine, eh bien, on va les défendre, eux aussi. Et c'est pour ça que cette association, elle se bat en faisant valoir la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. C'est très, très bien. Mais pour soutenir cette devise liberté, égalité, fraternité, pour qu'on vive bien tous ensemble, eh bien, il y a la laïcité. D'accord ? C'est pour le respect les uns des autres. Et c'est pour ça que j'ai accepté volontiers de venir parler avec vous de cette fameuse loi de 1905. Donc, Nicolas a parlé tout à l'heure d'un anniversaire d'une loi importante, mais moi, j'ai envie quand même de vous dire aussi qu'hier, avant-hier, il y avait un autre anniversaire. On en parlera peut-être aussi. C'était le 10 décembre 1948 que la France a signé cette très, très, très belle déclaration qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette déclaration, elle a été inscrite, gravée dans du marbre, qui a été inscrite dans notre Constitution. Vous savez, c'est ce grand texte qui chapeaute toutes les autres lois qui existent sur notre territoire. Voilà pourquoi j'étais contente d'être avec vous aujourd'hui.
Alors merci d'avoir accepté cette invitation et je le disais dans mon introduction, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, trois piliers auxquels j'en ai rajouté un, celui de la laïcité, et ce n'est pas par hasard que quand j'ai cité la date de 1905, j'ai dit aussi que c'était un nouveau fondement pour cette République-là. Aujourd'hui, quand on parle de la laïcité et de votre point de vue, comment vous pourriez la définir, la laïcité ?
Alors, de notre point de vue, la laïcité, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de vivre libre. Parce que cette loi permet de dire, on est libre sur notre territoire de croire ou de ne pas croire. Ou éventuellement, lorsqu'on a une religion, on est libre de changer de religion. Et tout ceci doit se faire dans la plus grande liberté. Et cette loi, elle a son premier article qui est très très intéressant. Je vais juste vous le lire. Je ne vous lirai pas d'autres textes de loi parce que c'est parfois un peu enquiquinant de lire des lois. Et cette loi, elle dit la République. Donc Nicolas vient de vous en parler. Liberté, égalité, fraternité. La République assure la liberté de conscience. Ça veut dire que ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans mon cœur, ce qui peut être de l'ordre de la croyance, de la foi en quelque chose, ou de ne pas avoir de foi, ou la foi simplement en l'être humain, il y a des gens aussi qui croient ainsi, eh bien ça doit être respecté. Hein ? Personne n'a le droit de vous dire « tu dois penser » ou « tu dois croire » ou « tu dois avoir cette foi-là » ou éventuellement de ne pas en avoir. Et surtout, la République garantit le libre exercice des cultes dans leur maison de culte. Et là, on est pour parler de la République, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'espace public.
Alors, du coup, si l'on parle de cette notion de laïcité, on ne peut pas exclure les religions. La liberté de croire ou ne pas croire, mais c'est aussi la liberté d'adhérer ou non à un culte, et vous l'avez dit, avec toute cette notion d'espace public. Je vais vous proposer maintenant à tous d'entendre deux témoignages autour de la laïcité sur plusieurs thèmes. À la suite, la laïcité du point de vue de la religion catholique, la laïcité et l'école avec le point de vue toujours du père Barthes de Jean, du point de vue de la religion catholique, et puis la laïcité et la République. La même chose sera réalisée avec l'imam Youssef Afif, l'imam de la Grande Mosquée, Mohamed VI de Saint-Étienne.
Laïcité et la religion catholique, je dirais qu'on s'appuie sur la fameuse formule hein, que tout le monde peut-être a dans l'esprit, la formule de l'Évangile qui est célèbre, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est Jésus qui parle à ceux qui lui demandent s'il faut payer l'impôt romain. Et résume bien un petit peu l'attitude tout simplement du croyant chrétien par rapport à, en effet, à la laïcité. Rendez à César ce qui est à César, c'est un respect des institutions publiques, de ce qui permet à la société de vivre dans une certaine paix les uns avec les autres. Donc on reconnaît tout à fait l'autorité de l'État, la contribution à l'impôt en particulier, il faut bien participer au pot commun. Mais alors rendez à Dieu ce qui est à Dieu, eh bien il n'y a pas d'adoration du pouvoir, il n'est pas sacré, ce n'est pas une religion, hein, c'est un moyen humain pour nous faire vivre ensemble. Je dirais l'adoration, l'amour est dû pour le croyant à celui qu'il considère comme la source de son existence, donc Dieu. Donc voilà, pour le catholicisme, il y a donc ce respect de l'autorité qui permet un vivre commun, et puis une indépendance, et chacun personnellement trace sa route, je dirais, vis-à-vis d'une foi religieuse qui peut être variée, puisque justement tout le monde a droit à vivre sa recherche personnelle. Alors, laïcité et école. Je dirais que le fait que l'école soit neutre, justement, ne reconnaisse pas de religion, c'est au fond le pari que l'enseignement, la croissance de chacun par la connaissance à l'école, l'apprentissage du vivre ensemble, le développement personnel de chacun, ça construit, comme je dirais, un fonds commun humain, qui représente vraiment une unité pour tous les enfants et les jeunes d'un pays. Il y a quelque chose de fort dans cette rencontre humaine qui suffit. Il n'y a pas à avoir une tutelle idéologique ou religieuse. Et chacun, du coup, ensuite, à travers cela, dans cette croissance personnelle et cet enseignement reçu, neutre, mais chacun poursuit sa recherche personnelle, voilà, sans qu'elle soit téléguidée par des idéologies, des religions officielles. Je dirais, c'est un peu, voilà, cette foi qu'il y a une communauté humaine et qui grandit ensemble à l'école, qui permet à chacun de s'épanouir personnellement et puis de poursuivre sa recherche personnelle. Ben, je dirais, la République, c'est le cadre dans lequel peuvent vivre ensemble des personnes de toute origine, de classe sociale, de toute culture, de tout tempérament. C'est des personnes qui ne doivent pas se sentir contraints ou défavorisées parce qu'une doctrine ou une religion prendrait le pas sur les autres, serait reconnue officiellement. Donc il y a une neutralité de la République qui en font une bonne chose pour permettre à tous de vivre, de se sentir reconnus. Donc il y a une neutralité de la République dans ses institutions qui permet à chacun de se sentir à l'aise, accueilli et libre par ailleurs de poursuivre sa recherche personnelle avec les personnes de son choix, parce qu'il y a aussi un aspect communautaire souvent dans la religion. Il ne s'agit pas de reconnaître les groupes, mais chacun peut aller vers son groupe de son choix en adoptant telle ou telle religion, par exemple. À ce titre-là, je ferai la petite remarque que dans le mot religion, il y a le mot relier. Donc, normalement, les religions elles-mêmes, dans leur vie, devraient être facteurs de communion, d'unité, hein, s'ils veulent respecter leur nom propre. Donc, sans favoriser telle ou telle religion, la République, alors cependant, elle doit permettre aux fidèles des diverses religions de se réunir, de prier, et éventuellement de s'exprimer dans le débat public, comme une participation, je dirais. Les religions, comme les groupes de pensée, évidemment, ont leur part aussi dans le débat public. Donc je crois qu'il y a une neutralité, mais c'est évidemment pas une exclusion, parce que du coup, ça, on se priverait de beaucoup de choses, d'ailleurs, au niveau des cultures et des foi personnelles.
Alors tout de suite, à la suite, on va écouter donc Monsieur Youssef Afif.
La laïcité en islam, c'est un mot... On va dire qui est nouveau pour la communauté, puisque on n'utilisait pas beaucoup ce terme-là dans les pays, on va dire, d'origine musulmane. Sauf que là, confronté à ce pluralisme un petit peu partout dans le monde, surtout dans des pays où les musulmans sont une minorité, mais qui sont quand même nombreux. Et la question, elle se pose principalement ici, en France, avec toute sa particularité et le rapport, on va dire, avec la laïcité, depuis la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Et sur ce point-là, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont malheureusement fausses, qui commencent, on va dire, par le socle commun où tous nos enfants ils sont à l'école, et donc ce contexte de laïcité assez spécifique à l'école et qui cherche à protéger, on va dire, nos enfants, qu'ils puissent évoluer dans un milieu où ils sont tous égaux, ils ont la même vision de leur société. Et ce que je voulais rappeler avant, c'est il y a quelques mots qui sont utilisés en islam comme le califat, comme la charia, et qui sont liés à un moment donné qu'on oppose parfois à cette laïcité. Le califat en islam, c'est pas ce qu'on peut appeler un système politique. Un système politique prescrit dans le Coran ou dans la tradition du prophète n'existe pas. C'est-à-dire, depuis le décès du prophète, c'était aux musulmans eux-mêmes de trouver un mode, on va dire, politique qui les gouverne et qui pourront utiliser pour pouvoir être gouvernés. C'était un grand débat entre différents courants. Mais les objectifs de tout ça, c'est cinq choses qui sont principales, qui sont applicables en France et que parfois on les trouve pas dans d'autres pays qu'on peut appeler de musulmans. Premièrement, la protection de la vie humaine. Deuxièmement, la liberté de croire ou ne pas croire. Troisièmement, le droit à la propriété privée. Quatrièmement, le libre arbitre. Et cinquièmement, la perpétuation de l'espèce. Donc ces cinq fondements qui sont protégés ici en France et qui sont des principes, on va dire, islamiques. Et ce qui prouve que ça ne contredit pas cette notion de laïcité ou cette vision de la laïcité à la française. personnellement, donc je représente la grande mosquée Mohammed VI, mais en même temps je parle en tant que musulman, je trouve que cette laïcité, cette forme de laïcité, c'est une chance, et pour les enfants, et pour notre société. Une chance dans le sens où tout le monde, il y a une certaine égalité entre tous ces enfants-là, et donc l'idée, c'est de les protéger contre toute influence, on va dire, idéologique ou politique, ou de croyance, ou toute autre influence, ce qui fait qu'ils sont tous égaux vis-à-vis de leurs professeurs ou toute autre personne. La laïcité, si je veux bien la redéfinir, c'est la liberté de conscience. C'est de la liberté de croire et de ne pas croire. Et c'est même un fondement religieux chez les musulmans. Donc c'est inversé dans le Coran, nulle contrainte dans la religion. C'est-à-dire, c'est clair, c'est qu'on n'impose à personne une croyance bien précise. Les personnes, l'être humain, a le droit de croire, de ne pas croire, et il a le droit de croire à ce qu'il veut. C'est très clair et c'est très simple.
Aujourd'hui, dans cette notion de laïcité, et notamment vers un public un peu jeune, qui se construit, qui apprend, qui grandit, on peut tomber sur une sorte de sensation d'être victime d'un système, victime de quelque chose que l'on ne choisit pas et que l'on subit. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça ?
C'est très marrant parce que cette notion de victimisation, on parlait hier lors d'un débat, cette posture de jouer, on va dire, si j'ose dire, la victime, c'est une posture des personnes qui cherchent à se cacher derrière ce concept-là parce qu'ils n'osent pas agir, parce qu'ils n'ont pas la capacité mentale ou intellectuelle d'agir. Et cette posture-là, elle n'a pas sa place dans la République. Au contraire, quand on fait des efforts, quand on essaie de s'émanciper, ben on arrive à réussir. Et c'est l'égalité des chances. Moi, ce que j'ai envie de donner ou d'envoyer comme message à ces jeunes-là, c'est qu'il faut voir aussi ce qui se passe ailleurs. On a des pays dits musulmans, où on n'a pas la possibilité de percer, on n'a pas la possibilité d'étudier gratuitement comme la République donne cette possibilité-là. Il faut voir aussi l'autre face, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, on a la possibilité d'évoluer, on a la possibilité d'étudier et on a tout qui est mis en œuvre dans ce sens-là. C'est-à-dire jouer la victime, c'est pas en notre faveur, c'est pas à la faveur ni des musulmans, ni des croyants en règle générale, et c'est pas une bonne chose pour tous les citoyens de toute façon.
Voilà, vous venez d'entendre donc deux témoignages de deux représentants, donc Youssef Afif, imam de la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, et puis le père Barthe Dejean de la paroisse de Saint-Vincent de Paul. Alors, est-ce que vous auriez des réactions par rapport à ça et des questions sur ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué et que vous voudriez vous exprimer? N'hésitez pas, vous m'appelez, j'arrive. Voilà, le tout c'est qu'on discute ensemble.
J'y respecte beaucoup la laïcité, mais par rapport, moi je crois que c'est mieux montrer la propre religion. C'est plutôt efficace et pour avoir des amis. Mais à part, je comprends qu'il y a le racisme parce qu'on est des différentes religions et tout. Mais des fois, quand tu ne comprends pas c'est quoi sa religion, c'est difficile à se faire Ouais.
Alors là, on en vient à une notion que vous avez citée tout à l'heure, Madame Coé, c'était cette notion d'espace public. Parce que la laïcité et le débat qui a lieu depuis quelques années autour de la laïcité, c'est finalement montrer que l'on appartient à une communauté religieuse dans cet espace public. Comment on le définit, l'espace public? Et on en reviendra ensuite sur l'espace public qui est aussi un collège et un établissement scolaire.
Tout à fait. L'espace public, c'est comme le nom l'indique, hein, c'est un espace qu'on va partager tous ensemble. La laïcité, ça n'est pas l'interdiction de parler de sa religion. Si dans une conversation avec des amis, on te demande des explications sur toi, ce que tu pratiques par rapport à ce que moi je pratique, comment est-ce qu'on peut échanger par rapport à ça? Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Ça, c'est quelque chose d'un mot un petit peu compliqué. Prosélytisme, c'est-à-dire aller vers les autres en disant « ma religion, c'est la meilleure, la tienne, elle ne vaut rien et je veux te convertir à ma religion ». C'est ça le prosélytisme. Et ça, c'est interdit. C'est interdit dans l'espace public parce que ça peut être considéré comme quelque chose d'extrêmement agressif. Et puis, il y a l'espace de l'école, l'espace de l'institution. Ça, c'est l'espace du service public, de ce qui doit être rendu, hein, comme le nom l'indique, comme service aux citoyens, aux jeunes que vous êtes et qui êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos futurs concitoyens, mais d'ores et déjà, vous êtes déjà des citoyens à part entière, hein, par rapport à vos droits et à vos obligations. Et c'est dans ces espaces-là qu'on doit se respecter les uns les autres, dans nos pensées, dans nos croyances. C'est pas interdit de parler, mais c'est interdit de faire en sorte que l'autre soit écrasé. Et quand on commence à utiliser sa pensée, sa croyance pour écraser l'autre, pour le nier, c'est à ce moment-là que commence le racisme, c'est à ce moment-là que commence la discrimination. Et c'est pour ça qu'on lutte contre ces choses-là et que le prosélytisme ne peut pas être accepté sur un espace qu'on doit tous partager. J'ai beaucoup aimé, dans ce qui était dit, cette façon de vouloir partageons tous ensemble.
Alors, moi, quelque chose qui est marquant quand on rentre dans ce collège-là précisément, le collège Jules Vallès, c'est donc ces escaliers à la porte d'entrée où est inscrit, donc, encore une fois, la devise de la République française. Et on voit bien, hein, parce que c'est en hauteur et on est face à ce mur-là. Madame Guézou, la laïcité et le collège, précisément, se fait à l'entrée avec une signature de la charte de la laïcité, me semble-t-il. Expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est et puis on demandera peut-être à quelqu'un de nous le résumer.
Alors, effectivement, en tant qu'institution de la République, hein, comme ça a été souligné, le collège Jules Vallès étant un établissement public, la laïcité fait partie de ses valeurs, de ses principes, c'est un principe aussi, donc qui est inscrit dans la Constitution. Alors le collège Jules Vallès, les élèves du collège sont pas plus différents que les autres collégiens. La laïcité, très franchement, nous en tant qu'acteurs, on est là aussi pour leur transmettre cette valeur parce que effectivement, il y a des questions autour du religieux. C'est médiatique d'abord. Et cette question-là, elle revient. On a plutôt de bons échanges avec les élèves parce qu'ils ont aussi ce besoin de connaissances, hein, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Ils ont des influences familiales. C'est vrai qu'on a un public, alors qu'on pourrait dire ethnicisé, si je puis dire, mais qui du coup, mais il y a quand même une pluralité hein, de croyants. Nous, on tient pas compte de cela puisqu'on est dans la neutralité. Et les questions qui parfois, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais par exemple parler avec son copain, Malak soulignait cette volonté de partager avec ses camarades parce que Malak a quand même un parcours migratoire très récent, hein, et c'est quelqu'un qui a su s'intégrer parfaitement dans la vie du collège. Hein. Ça fait un an, je crois, qu'elle est en France, c'est ça ? 2 ans bientôt. Et elle a su très rapidement parler français, etc., partager. Elle s'est portée volontaire dans le conseil de la vie collégienne. Mais je pense aussi que quand on touche effectivement à cet aspect religieux... Mais c'est indépendant de vous, Malak. Mais quand on touche à l'aspect religieux, les élèves, on les sent parfois dans une posture de défense ou de questionnement. Ils ont leurs influences familiales, on compose avec. Rentrer dans l'espace scolaire, c'est aussi leur rappeler qu'on est là d'abord pour les émanciper aussi, peut-être les affranchir d'une certaine manière de ces influences familiales, elles sont là. Après, à chacun de composer son système de valeurs, c'est aussi l'objectif de l'école, hein, d'émanciper chaque individu, chaque élève, de l'aider à grandir dans ce sens. Et... de le sortir d'une certaine manière d'une forme d'ignorance parce que nos élèves sont parfois ignorants sur certaines choses et notamment sur la question de l'altérité, sur l'autre, la question de la religion. Alors la religion, c'est, il n'y a pas un cours de religion à proprement dit à l'école, mais le fait religieux fait partie des programmes scolaires et on est là aussi pour les aider aussi à mieux comprendre l'autre, l'autre religion, ce qui a construit aussi notre monde. Hein. Tout à l'heure, Monsieur Afif, l'imam, parlait de ce côté humain, de cette rencontre, etc. Il y a aussi cette idée aussi de transmettre aussi aux élèves cette connaissance de l'humain, de croire, ne pas croire chacun a le droit de choisir. Hein. Nous, on n'est pas là pour imposer une forme d'idéologie ou de croyance, mais en tout cas, nous, on est dans cette neutralité et de donner à chacun les éléments pour se construire aussi, pour se construire, pour faire des choix. Et bien sûr, chacun est ici amené à devenir citoyen. On a aussi un projet de société. Et je pense qu'il ne faut pas omettre cette volonté à ce que chacun puisse faire partie de cette société. Plus tard, vous serez citoyen à part entière lorsque vous serez majeur. Et l'idée, c'est aussi de les amener dans ce système, dans ce projet qu'on a, nous, tout le monde fait société. Après, je pense que quand on est collégien, parfois il y a des... Alors on n'a pas connu ça au collège Jules Vallès depuis que je suis là, mais parfois on peut avoir des paroles malheureuses ou provocatrices chez certains élèves, mais c'est aussi un questionnement profond, je pense, mais qui n'est pas exprimé de la sorte. Et nous, acteurs et adultes, on doit se saisir justement parfois de cette provocation qui est parfois un jeu, hein, ou un questionnement, pour essayer justement d'ouvrir un débat, une discussion, et d'expliquer aussi, parce qu'il y a un besoin aussi de comprendre, et je pense que ça c'est naturel. Et c'est aussi une des missions de l'école, hein, que de transmettre justement ces valeurs, ces principes. Voilà.
La laïcité, ça n'est pas quelque chose qui permet d'exclure l'autre, hein, d'exclure celui qui est croyant. C'est pas ça du tout. Il faut savoir que la laïcité sur le territoire français, pourquoi c'est quelque chose de fort pour nous ? Eh bien, parce qu'elle est née au moment de la Révolution. Rappelez-vous, pour ceux qui en sont à ce programme-là, qu'avant, eh bien, il y avait des rois qui étaient, paraît-il, investis par Dieu et qui profitaient de ça pour écraser le peuple de toutes sortes d'impôts et de toutes sortes de choses difficiles à vivre. Les révolutionnaires ont décidé que ce roi, il fallait lui couper la tête et mettre à la place une vraie république pour que tout le monde soit vraiment à égalité de droit. Et c'est de ça qu'on part. Hein ? Et la loi de 1905, c'est le résultat de toute cette évolution qui est née pendant la Révolution.
Alors on va profiter de la présence des micros pour le donner donc aux élèves avec différentes questions.
Par exemple, il y a encore des gens qui sont racistes ?
Alors ça, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour des raisons qui tiennent à plein de choses. Déjà sur le fait que l'autre est différent. Donc comme il est différent, comme il n'a pas la même couleur de cheveux que moi, il n'a pas les mêmes yeux que moi, eh ben forcément, il est étranger et il me fait peur parce que je ne fais pas la démarche vers lui pour essayer de le connaître. Et le racisme naît de ça. Et c'est vrai que les questions de religion peuvent entraîner aussi cette exclusion de l'autre.
Alors, une autre question.
Aussi, on n'est pas obligé de se parler, mais on est obligé de se respecter.
Ça, c'est vraiment la phrase qu'il faudra qu'on conserve et qu'on écrive en bien gros.
Effectivement, tout à l'heure, je voulais en parler, mais nous, au quotidien, on est dans le vivre ensemble. Cette question de respect mutuel, elle s'impose de fait et elle doit. C'est le fondement un peu de notre façon de vivre aussi, sans le respect. Eh ben, moi, mon boulot en tant que conseillère principale d'éducation, hein, je régule ces problèmes entre élèves, hein, du manque de respect, du manque de l'autre. On est sur des questions assez vives, hein, la question du respect filles-garçons aussi, qui est très forte ici. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de le dire. Alors, les élèves ont tous bien conscience de ce mot, hein, ils savent ce que ça veut dire, mais c'est vrai qu'en application, c'est un peu compliqué au quotidien. Je vais laisser les élèves s'exprimer.
Bah, dans des collèges, il y en a qui sont pas racistes et dans des autres collèges, il y en a qui sont racistes, qui veulent pas, enfin, accepter des autres personnes qui sont pas de la même race. Enfin.
Précise un peu, sans nommer ces collèges-là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as vu ou quelque chose que tu as entendu ?
Bah, il y en a que j'entends ou non, j'ai pas vu.
Après, je pense que vous n'êtes pas allé voir dans d'autres collèges, donc. Ce sentiment d'être un peu différent fait qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de mixité dans le collège. Et c'est vrai que la question de mixité, c'est une question fondamentale aussi, parce que s'il y avait mixité, il y aurait justement la laïcité de plein droit, j'ai envie de dire. Elle n'aurait même pas besoin d'être discutée. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une forme de ségrégation spatiale, territoriale, ethnique, etc., et qui fait que sociale, qui fait que les élèves ont ce sentiment parfois d'être mis un peu de côté.
Alors peut-être aussi rappeler la notion de l'école publique.
Absolument,
ici.
Oui. L'école publique, tout à fait. L'école publique, là, tout à l'heure, on parlait des escaliers. Ces principes républicains sont inscrits à l'entrée, hein, égalité, fraternité, liberté. Nous, on tend vers vers ces principes-là au quotidien. Les rappeler, ça fait pas de mal. Et on les vit au quotidien. D'ailleurs, j'en ai peut-être pas parlé, mais nous, les élèves qui sont ici, donc ce sont les représentants essentiellement du conseil de la vie collégienne, et on va travailler sur un projet autour du vivre ensemble, notamment parce que en interne on a aussi des problèmes, hein, entre élèves, hein, mais aussi sur cette question de laïcité, du vivre ensemble au quotidien, de la différence, du pluralisme, etc. Donc on a envie, et les élèves ont envie de s'investir dans ce projet.
Vous avez dit que dans ce collège, on avait signé une charte comme quoi le collège, il était laïque. Mais dans certains collèges, des collèges privés, ils acceptent pas des gens d'autres religions.
Alors, là, on en a parlé la dernière fois, effectivement, entre nous. Le collège est laïque. Le collège, ici, il est laïque, c'est-à-dire qu'il accepte tous les élèves, quelle que soit leur religion, leur sexe, leur couleur de peau, tout le monde est le bienvenu. Dans les collèges privés, ça, je vous ai expliqué, c'était un petit peu technique, mais il y a des collèges privés, et pas tous, la plupart des collèges privés sont sous contrat, donc ils ont passé un contrat avec l'État, et là, ils sont tenus aussi d'accepter tous les élèves, quelle que soit leur religion, etc., leur couleur de peau, leur sexe, tout le monde, ils acceptent tout le monde. Ça, ça date depuis 1959. Et je vous ai dit qu'effectivement, il y avait quelques établissements privés qui sont hors contrat, qui, eux, vont avoir, au contraire, ne sont pas trop dans la philosophie. Ils ont un autre, ils sont libres de choisir leurs élèves. Mais il y en a très peu des collèges. La plupart des élèves en France sont scolarisés dans des établissements d'abord publics et privés sous contrat. D'accord ? Ça, il ne faut pas qu'il y ait de confusion.
Moi, je trouve qu'il y a des gens qui se moquent, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça peut blesser, en fait.
Alors, qui se moque à quel niveau
Ben, je sais pas, dans tous les niveaux.
Non, mais ça, c'est une notion du vivre ensemble. Alors, oui. Au collège, oui. Et puis, la LICRA, il y a ce rôle-là qui a été défini au début, mais c'est toute cette notion aussi de vivre ensemble qui est défendue par la LICRA par rapport à ça. Et les moqueries, se moquer, on peut se moquer gentiment. Se moquer pour faire du mal, c'est là où ça commence à poser problème, et c'est là où la loi peut intervenir. Alors, Madame Coé est avocate, donc elle connaît aussi ce sujet-là.
On est tout à fait d'accord, et c'est une bonne question. Effectivement, il ne faut pas oublier que on est tous régis par des textes, par des lois qui permettent justement qu'on vive ensemble. Et le fait de se moquer de quelqu'un, alors effectivement, ça peut être rigolo parce que bah tiens, t'as mal lacé ton lacet ou des choses comme ça. Simplement, quand cette moquerie devient oh là là, mais t'as vu la couleur de cheveux que tu as, tu as vu la couleur que tu as, là, ça devient de l'injure. Et cette injure, si en plus elle a le caractère raciste ou racial, comme on dit, eh bien c'est réprimé par le tribunal. Et il faut savoir que même à votre âge, vous pouvez vous retrouver devant un juge spécialisé, si effectivement vous procédez à des insultes, à des menaces, en vertu du fait que l'autre est différent de vous. Ça peut être extrêmement grave. Et les sanctions du tribunal, ça peut aller effectivement d'une sanction financière, d'une amende, et si les choses deviennent de plus en plus graves, parce que bien souvent, on s'aperçoit que les insultes entraînent ensuite des menaces, que les menaces entraînent éventuellement des gestes, et des gestes de plus en plus graves, qui peuvent être des vrais coups, des blessures. Et pour des choses comme ça, il faut savoir aussi que la prison, elle est inscrite dans la loi. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur, hein, mais je suis là pour vous dire que, oui, eh bien, dans l'espace public, comme dans un collège aussi, il y a des lois. Et que la loi, c'est surtout le respect de l'autre, donc pas d'insultes, pas de menaces, pas de coups, pas de... Sur une bagarre, vous savez, dans une cour d'école, vous pouvez vous retrouver devant un juge.
En fait, moi, j'ai posé une autre question, c'est qu'en fait, est-ce que la charte de laïcité est une forme de harcèlement ?
Ah non, 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 au contraire, la charte, c'est vrai que j'ai esquivé un peu les questions, mais la charte, en fait, elle s'est imposée dans tous les collèges de France, hein, suite aux événements de Charlie Hebdo. Je pense que c'est cette charte... bon, on a parlé de morale laïque à la fois. Je pense que cette charte, elle est nécessaire parce qu'elle permet simplement de rappeler la loi. Et simplement la loi, c'est une piqûre de rappel, c'est nécessaire. Rappeler qu'on est quand même dans un établissement laïque, c'est aussi pour éviter de tomber dans certaines dérives. Et la lire, on est tous d'accord, vous avez tous adhéré à la lecture de cette charte, hein, puisque vous l'avez signée, vos parents l'ont signée aussi. il y a quand même une forme d'adhésion aussi de votre part. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle simplement que la laïcité, elle a été aussi fondée parce qu'elle est là aussi pour préserver, d'une certaine manière, les religions minoritaires, donc les minorités. Et cette charte, elle a vocation à lutter aussi contre les formes de discrimination. Les moqueries peuvent être orientées sur des formes de discrimination. Et c'est bien de rappeler cette charte, quelque part, parce que on a affaire, effectivement, parfois dans la bêtise, hein, parfois dans l'ignorance, encore une fois, dans la naïveté, dans l'amusement. Après, on tombe dans des formes d'harcèlement, comme vous l'avez souligné, mais de là à dire que la charte est une forme d'harcèlement, non, bien au contraire.
Alors c'est peut-être aussi le fait, que, c'est ce qu'on a entendu dans les deux témoignages tout à l'heure des représentants des religions, le fait qu'on se construit et qu'on se sent un peu pointé du doigt. On allume la télé et on se sent pointé du doigt. On a une autre question qui arrive ici.
Avons-nous le droit de porter des objets religieux dedans et en dehors de l'établissement ?
Alors... vaste question. Alors, la loi. Depuis le 15 mars 2004, hein, il y a une loi sur les signes ostensibles. Donc, ce qu'on appelle un signe ostensible, donc, c'est un signe voyant, marquant, qui marque une certaine forme d'appartenance religieuse. Alors, là, il faut nuancer les propos. Au début, on était parti sur des signes ostentatoires, ostensibles. On est revenu sur cette forme, sur cette notion d'ostensible. Donc, il faut bien comprendre que sont tolérés, il y a des signes qui sont tolérés, hein. Une croix autour de son cou, si la croix fait pas 10 cm, il y a pas, c'est pas ostensible. Maintenant, on a le droit d'avoir un petit signe religieux. Après, c'est vrai que cette loi, elle a été plutôt orientée sur le voile. Le voile est un signe d'appartenance manifestant une appartenance religieuse. Alors je sais qu'on a des élèves dans le collège qui portent le voile, mais qui respectent la loi, et ça je tiens à le souligner, parce que ces élèves-là pourront peut-être s'exprimer si elles en ont envie, mais elles le respectent, c'est-à-dire que arrivées aux abords du collège, elles retirent leur voile. Moi j'ai eu l'occasion tout récemment de discuter avec une d'entre elles, parce que je ne savais pas qu'elle portait le voile, c'est elle qui me l'a dit. Bon, a priori, c'est sa volonté, c'est son choix personnel, hein. Il lui a pas été imposé. Donc, voilà. Mais elle m'a bien dit qu'elle l'enlevait, justement, avant d'arriver aux abords du collège. Donc, voilà.
C'est tout à fait ça, la loi. La loi, effectivement, c'est de ne pas porter ses signes à l'intérieur d'une institution publique, comme l'école, bien évidemment, mais que le port du foulard, il est tout à fait possible en dehors, sur l'espace public. En revanche, ce qui n'est pas permis, c'est de se promener avec le visage caché. Ça, il y a une autre loi qui est arrivée ensuite de cette loi sur les signes ostensibles qui dit que la République, elle doit se pratiquer à visage découvert. C'est-à-dire que même si on a un foulard, ce qui après tout doit être respecté et toléré, parce qu'on n'a pas parlé de tolérance également entre nous, eh bien même si on a un foulard, il ne peut pas nous couvrir le visage. Ça n'est absolument pas possible.
Est-ce que les lois changent à chaque fois ?
Ah oui. Les lois évoluent, en fait.
Et les lois, elles s'adaptent. Elles s'adaptent aux mœurs, elles s'adaptent à la vie pour que ça colle au maximum à la façon de vivre que nous avons. Et c'est vrai que la question du foulard et du voile ne se posait pas il y a, 30 ou 40 ans, qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaitent pratiquer de cette façon-là, eh bien, je crois que sur l'espace public, il faut le tolérer. Alors, pourquoi, j'ai vu une petite main qui commence à se lever, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir le visage couvert ? Eh bien, c'est parce qu'à tout moment, on doit pouvoir être susceptible de présenter son identité. Et l'identité, c'est à partir du visage. À tout moment, ça va être comme ça dans une république, où on est tous égaux et on a les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Est-ce que la charte de laïcité, on est obligé de l'afficher dans tous les collèges ?
Oui, ça c'est obligatoire. Elle est affichée, elle est recommandée, vivement recommandée, mais de manière, si vous voulez, ça évite d'avoir à gérer certains problèmes, parce que c'est vrai qu'on touche un peu à la vie intime, hein, quand on parle du religieux, hein. On touche d'une certaine manière à la sphère intime, mais il est nécessaire de rappeler, je vous l'ai dit, hein, ça sert à rappeler... Notre institution, notre république, on vit dans une république laïque, hein, c'est inscrit, indivisible, etc. C'est inscrit dans notre constitution, donc il est nécessaire de rappeler. Et donc l'affichage, s'est imposé de fait.
Mais madame, c'est bizarre quand même, on n'a pas le droit d'interdire les... comment ça s'appelle ?
les signes religieux aux gens, par exemple les gens qui se cachent le visage, ils font ce qu'ils veulent. Après, s'il y a quelqu'un qui leur demande de leur retirer parce que c'est urgent ou quelque chose comme ça, le feront. Mais sinon, dans la rue, elles peuvent le mettre.
Alors, moi, ce que j'entends dans cette question, c'est vrai que ça touche à la notion de liberté aussi. Hein. On entend bien ce paradoxe aussi à se dire. Néanmoins, encore une fois, il y a un contexte sociétal qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu des attentats. Il y a eu encore un attentat tout récemment à Strasbourg, là. Si vous voulez, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher. Et c'est vrai qu'on touche à la liberté d'une certaine manière. Vous avez raison de souligner. C'est comme tout à l'heure, on n'a pas tout à fait répondu à la question de quand on allume la télé, effectivement, on se sent stigmatisé, on se sent. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais quelque part, aujourd'hui, on peut plus se cacher. Et se cacher de quoi ? Justement, on est un pays libre, laïque. La liberté, elle est inscrite dans le fronton de la République. Donc, on fait quoi ? Se cacher, se dissimuler, si vous voulez, c'est un comportement qui peut être suspect. Donc, si on se cache le visage, on est dans un climat un petit peu insécuritaire aussi, d'insécurité, à se dire qui est cette personne ? Est-ce que c'est un homme, une femme ? Que veut-il ? Il y a des questions aussi. Il faut aussi se mettre à la place de l'autre. Et je pense que ça, c'est important. Après, je vais laisser la parole à Madame Coé. Elle saura mieux répondre que moi, d'un point de vue législatif. Mais la loi, encore une fois, tout à l'heure, la question de est-ce que les lois, elles changent tout le temps ? Oui, elles changent en fonction du contexte de la société. La société évolue et on est sur nos gardes aussi. Et la liberté, alors, on peut se dire, on perd en liberté, d'une certaine manière. Après, vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, mais même au collège, moi, déjà, je vous ai fait des remarques à certains d'entre vous qui viennent avec des jeans tout troués, avec des gros trous. Des fois, je vous fais des remarques avec humour, mais parfois, je me dis que c'est pas tout à fait une tenue appropriée. Après, j'entends bien que vous suivez la mode, mais que vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, mais dans le respect, encore une fois.
Alors, on va peut-être entendre une dernière question, parce que le temps nous est compté, l'heure va bientôt sonner.
Comme Madame Guézou, elle a dit, quand je rentre de l'école, j'ouvre mon foulard, mais c'est pour quelle raison on n'a pas droit ?
C'est la loi.
Alors, Madame Coé, je suis vraiment désolé, vous êtes très nombreux, donc ça donnera l'occasion de refaire une autre rencontre. Ça sonne, ne partez pas tout de suite s'il vous plaît, parce qu'on va conclure quand même cette rencontre-là. On a bien vu que cette notion de laïcité, elle a beau être expliquée, signée, elle reste toujours pleine d'interrogations. Mais le tout, c'est de savoir que l'on se retrouve, nous tous, ici, dans une même salle, à discuter autour de tout ça, et finalement, la discussion se passe bien. Et on se pose de belles questions. Alors, la LICRA agit sur ces questions-là, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, mais c'est aussi une notion de vivre ensemble.
Absolument. Donc, il y a une notion de vivre ensemble, donc j'y reviendrai dessus. Et puis surtout, n'oubliez pas que si vous êtes victime, vous, d'une discrimination quelconque, d'une moquerie, d'une insulte, de coups et blessures, parce que peut-être qu'on considérera que vous êtes différent d'un autre, eh bien, à ce moment-là, sachez que la LICRA, elle est là pour vous aider, vous prendre en charge, vous accompagner pour que la justice soit rendue. Parce que la justice, parce qu'il y a justement des lois, ne peut pas tolérer ce genre de comportement et vous serez défendu. De la même façon que si jamais vous agressez quelqu'un en raison de sa différence, la personne pourra demander effectivement la justice contre vous. Je voudrais juste dire, la LICRA, quand on intervient dans les écoles, on rappelle que cette devise, liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que ça veut dire ? La liberté, c'est un droit, effectivement, mais c'est pas le droit de tout faire, c'est un droit qui est contrôlé par la loi. L'égalité, c'est effectivement quelque chose qui doit devenir le respect, le porteur justement de cette fameuse liberté. Mais n'oubliez jamais qu'il y a aussi la fraternité. La fraternité, c'est quoi ? Eh bien, ça doit être un idéal de vie qui doit faire que dans une société, on se considère tous égaux. Vous pensez autour de vous à vos frères et sœurs. Eh bien, ceux qui vivent avec vous en classe, ceux qui vivent avec vous dans votre montée d'escalier, ceux qui vivent avec vous dans votre quartier, eh bien, on doit être obligé de pratiquer cette fraternité. Autrement dit, la solidarité aussi entre nous, il ne faut jamais l'oublier.
Alors, nous nous quittons sur ces dernières paroles. Merci d'avoir participé. Je pense que vous pouvez vous applaudir.